journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des cochons et des hommes, le cœur d'un porc dans la cage thoracique d'un malade. Première greffe mondiale réalisée aux États-Unis. Et c'est un espoir pour les patients qui meurent parfois faute de dons d'organes. Un simple autotest à la place de l'antigénique ou du PCR. Le gouvernement assouplit de nouveau le protocole à l'école. Les parents sont ravis d'éviter d'attendre à la pharmacie. Mais les syndicats de l'éducation sont furieux. On va les entendre avant d'en parler avec votre invité tout à l'heure qui présidera, Nicolas, les débats du pass vaccinal au Sénat.
Oui, monsieur le président du Sénat, Gérard Larcher, est à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Vous pourrez, comme tous les jours, dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
Premier bain de foule pour Emmanuel Macron après ses propos sur les non-vaccinés. Ça s'est plutôt bien passé hier soir dans les Alpes-Maritimes. Et puis nous retournerons à Wuhan, 2 ans pile après l'annonce du premier mort du Covid dans le monde. Dans ce journal aussi mis au point sur la protection des candidats à la présidentielle, Israël qui autorise la GPA pour tous et Jacques Rivette au cinéma, ses films à voir ou à revoir sur grand écran.
France Inter.
Des organes de porc pour sauver des hommes. Ça fait 100 ans que la médecine se penche sur la question. On a commencé par utiliser l'insuline des cochons pour soigner les diabétiques, puis leurs valves cardiaques et leur peau pour les grands brûlés. Voici donc, pour la première fois, un cœur transplanté vendredi dans le corps d'un malade en phase terminale. L'opération a eu lieu dans le Maryland aux États-Unis et c'est la première fois, Loïc Loury, que le cœur d'un animal est greffé à un homme sans rejet immédiat.
David Bennett, 57 ans, a désormais dans la cage thoracique le cœur d'un porc génétiquement modifié. 8 heures d'opération vendredi dernier et aucun signe de rejet 48 heures après être sorti du bloc. Malgré tout, ses médecins restent prudents. Le pronostic de David Bennett dans les jours, les semaines et mois à venir est incertain. Mais l'opération n'en reste pas moins une prouesse et une chirurgie de la dernière chance pour ce patient trop malade pour être éligible à une greffe humaine. Le porc dont le cœur avait été prélevé avait été génétiquement modifié pour ne plus produire un type de sucre qui aurait provoqué un rejet immédiat. La recherche en la matière a fait un bond ces 10 dernières années, laissant espérer une solution prochaine aux pénuries d'organes. Actuellement, plus de 100 000 Américains sont en attente d'une greffe chaque année. Aux États-Unis, 6 000 personnes meurent faute de transplantation. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, 5 à 600 malades meurent chaque année faute d'avoir été greffés.
Et là, pas de prouesse médicale, Florence, et même plus besoin d'un pharmacien.
Un simple autotest suffira désormais aux élèves des écoles, collèges et lycées pour retourner en classe quand un cas positif y aura été détecté avec une attestation sur l'honneur. Et comme avant, il y en aura 2 autres à faire à J+2 et J+4. Voilà donc le nouveau protocole annoncé par Jean Castex hier soir. Tant la situation était intenable dans les pharmacies et les labos. 10 millions de tests réalisés la semaine dernière après de longues heures de queue. L'annonce du Premier ministre est donc un soulagement pour ses parents qu'a rencontré Christophe Vincent à Lyon.
Fini les tests PCR ou antigéniques, 3 tests à la maison suffiront. Avec une seule attestation, les parents respirent.
C'est beaucoup plus simple.
C'est très bien, parce que les petits, on ne peut pas faire tout le temps des tests. C'est pas bien pour eux, engorger les labos. Et il n'y a aucun sens pour les enfants, donc je pense que c'est très bien. Soit d'ailleurs que j'en fasse mes autotests, je ne suis pas certain, mais bon.
Franchement, c'est mieux que d'aller s'aligner, faire 3 heures de temps devant une pharmacie, je pense que c'est mieux.
En plus, les tests à l'extérieur rebutent beaucoup d'enfants.
Ça fait mal, ça crie, c'est pas content. Et le fait que ce soit papa et maman qui le fassent et qui aillent plus délicatement, c'est peut-être en effet une solution pour que ce soit plus facile, plus accessible en fait.
L'ancien protocole a surtout perturbé l'activité des parents.
Nous, avec le télétravail, très compliqué, parce qu'un enfant à cet âge-là, il faut s'en occuper, donc c'est pas tenable. C'était bien qu'ils réagissent enfin.
On n'a pas tous la possibilité de faire garder nos enfants au pied levé. Moi, je sais que là, j'ai 5 collègues qui sont absentes, c'est compliqué quoi, à gérer pour nous. Si on peut être testé à la maison et pouvoir affirmer sur notre bonne foi que les enfants sont négatifs ou que nous on est négatifs, c'est beaucoup plus simple.
Les parents craignent une pénurie d'autotests, même si Jean Castex promet d'en faire livrer 11 millions en pharmacie. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Alors pas du tout sur la même ligne les syndicats d'enseignants qui appellent à la grève jeudi. Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP, premier syndicat du primaire, est même très en colère.
On marche sur la tête, on a vraiment l'impression qu'on est hors sol, on est en dehors de la réalité de l'école. On ne répond pas là aux enseignants et au personnel des écoles pour mieux les protéger. On ne fait que répondre à la demande forte des tests pour désengorger les pharmacies et les laboratoires. Et on assouplit de façon drastique, mais on va forcément décupler la contamination dans les écoles. Et en plus, on n'aura plus aucun tracing puisque les autotests ne permettent pas de faire remonter. Donc on ne comptabilisera plus les enfants qui seront testés positifs. Donc ça va mécaniquement faire baisser les chiffres, mais la contamination, elle sera bien réelle dans nos écoles.
Guylaine David, interrogée sur France Info, secrétaire générale du SNUIPP. À l'hôpital, ce sont 2500 nouveaux patients qui ont été admis en 24 heures. Et la situation est critique en Martinique. Le nombre de contaminations explose à près de 2000 cas pour 100 000 habitants. Le préfet de Lille veut tout faire pour éviter le confinement et se félicite d'un rebond de la vaccination. Emmerder les non-vaccinés, Emmanuel Macron hier a pu mesurer l'effet de ses propos sur le terrain. Premier bain de foule depuis la phrase choc de la semaine dernière à Tende, dans les Alpes-Maritimes. Un peu plus d'un an après le passage de la tempête Alex. Mais hier soir, le climat était plutôt clément, Maxence Lambrecq.
Au pied des montagnes, dans la nuit noire, 5 petits degrés, 3 quarts d'heure de déambulation.
Ça va, le moral est bon ?
Toujours cette question à la bouche.
Bonsoir.
Pourquoi vous continuez à provoquer les non-vaccinés ?
Et très bonne année à vous.
Répondre, comme s'il n'avait pas entendu la question, comme si ce débat ne l'intéressait pas. Pas aujourd'hui, l'apaisement après la sortie choc.
Merci, monsieur le président.
Un peu plus loin, échange avec deux jeunes femmes. Une troisième ne dit rien. Elle sourit derrière son masque et ouvre la paume de ses mains. Elle y a écrit au feutre noir « Je t'emmerde ».
Merci.
Emmanuel Macron le lit et s'en moque.
Merci beaucoup et bon courage et protégez-vous surtout.
Également.
Protégez-vous, faites attention à vous et aux autres.
Comme si de rien n'était, comme s'il s'y attendait. Ne pas relancer la machine, rester dans les bons vœux, les dessins d'enfants.
Bonjour. C'est pour moi ?
Il faut quand tu lis.
D'accord, regarde, je le mets dans ma poche.
En tout et pour tout, donc, deux interpellations sans animosité. L'entourage du président s'attendait à pire. À Nice, le bain de foule aurait sans doute été plus virulent, glisse un député en marche. Cette phrase va le suivre encore longtemps. Nice, Maxence Lambrecq, France Inter.
Hier, ce sont les sénateurs qui ont commencé à se pencher sur le pass vaccinal en commission. Ce qu'ils veulent, c'est que le dispositif soit levé quand il y a moins de 10 000 patients Covid dans les hôpitaux et qu'il ne s'applique pas aux moins de 18 ans qui resteraient soumis au pass sanitaire. Le texte sera discuté dans l'hémicycle cet après-midi. Voilà donc où nous en sommes, 2 ans après qu'un mystérieux virus a été repéré en Chine, à Wuhan. Le premier mort du Covid y était officiellement annoncé le 11 janvier 2020. Puis ce fut le confinement drastique pour les 11 millions d'habitants de la ville. Encore un traumatisme aujourd'hui. Reportage sur place, signé Sébastien Berriot.
L'épidémie semble bien loin. Dans les rues de Wuhan, de nombreux habitants ont perdu l'habitude de porter le masque. On se promène le soir exactement comme avant sur les bords du fleuve Yangtze. Une vie normale, mais Wuhan conserve toujours les cicatrices de 2020. L'énorme hôpital construit en 10 jours au plus fort de l'épidémie existe toujours. Et puis il y a ce traumatisme que certains n'arrivent pas à effacer, comme ce jeune père de famille, Man.
Je n'ai pas particulièrement envie de me souvenir de cette période qui est à marquer en gris. Dernièrement, je suis allé à Shenzhen pour un échange professionnel et mes collègues m'ont demandé de partager certains sentiments que j'ai éprouvés à Wuhan pendant l'épidémie. J'avais envie de pleurer en parlant, c'était très dur.
Certaines voix dissidentes profitent de cet anniversaire pour s'exprimer et demander des comptes aux autorités. Zhang Hai, par exemple, a perdu son père, décédé du Covid dans un hôpital de Wuhan début 2020, il réclame toujours un procès.
J'ai poursuivi en justice le gouvernement provincial, la municipalité locale et l'hôpital. Mais à ce jour, je n'ai aucune nouvelle. Et les autorités en profitent pour prendre des mesures de rétorsion contre nous. On m'empêche de sortir, je suis surveillé.
Wuhan suit avec attention et une certaine peur l'arrivée d'Omicron en Chine. Pour le moment, aucun cas du variant n'a été signalé dans la ville. Wuhan, Sébastien Berriot, France Inter.
La Chine qui vient de confiner une troisième ville et ses 5 millions d'habitants dans le centre du pays après la découverte de quelques cas positifs. C'est toujours la stratégie zéro Covid, d'autant plus appliquée que les Jeux Olympiques approchent dans 3 semaines maintenant à Pékin. La mort du président du Parlement européen cette nuit, l'Italien David Sassoli avait 65 ans. Il était hospitalisé depuis la fin décembre dans un centre de traitement du cancer. Ancien journaliste de centre-gauche, il était à la tête de l'Assemblée depuis 2019. Son mandat devait expirer ce mois-ci.
En France, il est 8h10, Florence, trop de violence contre les élus.
On en parlait hier avec ce député de Saint-Pierre-et-Miquelon, agressé par des opposants au pass sanitaire. Près de 1200 élus ont été pris pour cible de janvier à novembre 2020. décembre 2021. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, réunira ce soir les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour faire le point sur les derniers chiffres et les enquêtes en cours. Des élus qui se retrouvent donc parfois avec des gardes du corps, comme le sont les candidats à l'élection présidentielle dans 3 mois. Meetings et déplacements de campagne, certains ont droit aux policiers du service de protection des personnalités. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Alors d'abord, comment fonctionne ce service ?
Alors, entre les chauffeurs et les officiers de sécurité, il y a au ministère de l'Intérieur environ 700 fonctionnaires qui sont dédiés à la protection des personnalités, qu'elles soient candidates ou non. Ensuite, il n'y a pas de texte qui encadre précisément les critères d'attribution de cette protection. Le ministère de l'Intérieur décide en fonction de la menace qui pèse sur chacun. Elle est évaluée au cas par cas. Ce n'est donc pas nécessairement lié à la notoriété des candidats à la présidentielle, mais vraiment au danger qui peut les guetter. Les candidats peuvent refuser cette protection. Certains font appel uniquement à de la sécurité privée. D'autres se protègent avec les deux, privés et policiers.
Et quelle est la mission de ces policiers auprès des candidats, Ariane ?
La candidate ou le candidat se déplace ensuite avec un chauffeur et au moins un officier de sécurité du service de la protection. Un officier qui n'est pas là que pendant les déplacements, c'est aussi ce service qui va par exemple évaluer la sécurité dans une salle avant un meeting, voire entre autres par où évacuer un candidat en cas de besoin. Si jamais une déambulation est prévue dans une ville, l'officier prépare le déplacement en lien avec les policiers locaux qui interviennent aussi sur le parcours. Encore faut-il que la candidate ou le candidat ait prévu et prévenu de cet éventuel bain de foule. Enfin, la protection n'est pas systématiquement levée une fois la campagne terminée. Elle peut être maintenue après l'élection si on estime qu'un danger persiste pour une personnalité, même si elle n'est plus candidate.
Merci Ariane Grissel. Un appel à la grève dans le secteur de l'énergie lancé par la CGT à partir du 25 janvier. Il concerne notamment EDF pour une revalorisation des salaires et des pensions. Décidément, c'est le pays du grand écart entre ultra-religieux et très large ouverture sur les questions de société. Israël légalise la GPA pour tous. À partir d'aujourd'hui, tous les couples et même les célibataires pourront avoir recours à une mère porteuse. Dans un gouvernement qui va de la droite nationaliste à la gauche de la gauche, en passant par un parti islamiste, le ministre de la Santé vit avec un homme. Il défend les droits LGBT. C'est donc lui qui a porté cette réforme, Frédéric Mettezo.
Ils étaient plus de 50 000 à en rêver lors d'une manifestation à Tel Aviv en juillet 2018. La GPA universelle devient réalité aujourd'hui grâce au ministre de la Santé du parti de gauche Meretz, Nitzan Horowitz. Julien Baloul, avec son mari, élève 2 filles, nées à l'étranger de mère porteuse. Il est porte-parole de l'association des pères gays d'Israël qui avait saisi la Cour suprême.
C'est des processus qui sont extrêmement coûteux, qui sont extrêmement difficiles. Ce droit est dorénavant égalitaire et c'est totalement accepté. On le voit dans tous les sondages, dans toutes les écoles, il y a des enfants de couples homosexuels. Et la blague aujourd'hui en Israël, c'est que lorsque quelqu'un fait son coming out, sa mère lui dit « fais ce que tu veux du moment que tu m'apportes des petits-enfants ».
La GPA est autorisée en Israël depuis 25 ans pour les couples hétéros, puis pour les femmes célibataires stériles et prise en charge par le système de santé publique. Ce sera le cas désormais pour tous les autres.
La mère porteuse a une rémunération qui est encadrée par la loi, où elle est encadrée par des psychologues avant et après l'accouchement. C'est vraiment l'encadrement sur les critiques, sur la marchandisation, sur le business, etc. Je crois que la meilleure réponse, c'est qu'il faut comprendre que dans tous les cas, la GPA existera toujours. Donc la meilleure chose à faire, c'est de l'encadrer pour éviter les abus.
Du côté des candidats à la parentalité, on espère que le processus ne sera ni trop long, ni bureaucratique. Tel Aviv, Frédéric Mettezo, France Inter.
Un accident maintenant digne de Mission Impossible aux États-Unis. La scène se déroule dimanche à Los Angeles. Un pilote d'avion de tourisme vient de décoller, mais il doit atterrir en urgence et le fait sur un passage à niveau, juste avant l'arrivée d'un train. Les policiers l'ont extirpé de justesse du cockpit. Je pense que ce type doit jouer au loto, car il a quand même trompé la mort 2 fois en l'espace de 10 minutes, a déclaré l'un de ses sauveteurs. Enfin, loin du cinéma catastrophe et des effets spéciaux, l'œuvre de Jacques Rivette est à revoir sur grand écran, diffusée dans certains cinémas cette semaine. L'amour fou, la belle noiseuse, Paris nous appartient, n'ont pas pris une ride, Corinne Pellissier.
Mieux vaut, ces temps-ci, utiliser l'angle du hasard.
Son public était restreint, mais ses films faits pour durer. Lorsqu'il imagine en 70 avec Out, un film d'une durée de 12 heures, jamais exploité en salle, découpé finalement pour la télévision, Jacques Rivette est déjà à l'avant-garde. Spécialiste de l'œuvre du plus discret des jeunes turcs, Hélène Frappa lui a consacré un livre, Jacques Rivette, secret compris.
C'est évidemment celui qui est Out qui est le plus in. C'est-à-dire que Rivette a toujours été aussi le cinéaste le plus branché. Dans Out 1, il invente quand même ce qu'on regarde longueur de journée, c'est-à-dire des séries.
On vous a jamais appris à marcher avec une machine à coudre sur la tête.
Revoir aujourd'hui La Belle Noiseuse ou L'Amour Fou est une expérience troublante, tant sur le choix des formats que la modernité des sujets, à commencer par la place des femmes dans le cinéma de Jacques Rivette. Radical et inventif, il savait aussi se projeter comme aucun autre dans chacun de ses portraits.
Ça fait mal.
C'est un cinéaste qui n'est pas du côté de la possession. À une époque où les anciens récits, dans ce qu'ils peuvent, trimballer de clichés, de misogynie, il invente un type de récit où les femmes vont être alliées, complices. Pour moi, c'est la plus grande cinéaste de la nouvelle vague. C'est quelqu'un vraiment qui a réussi à avoir un regard visionnaire.
Bulogier, Jane Birkin, Sandrine Bonner, Emmanuel Béart, toutes auront incarné cet esprit de liberté si cher au réalisateur.
Suzanne, combien
voilà, Jacques Rivette et la bande des quatre de la nouvelle vague avec Godard, Chabrol et Truffaut. Ces films sont donc à voir jusqu'au 13 février en salle, un peu partout en France et à la Cinémathèque.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et toujours 9 départements du sud-ouest, Marie-Pierre, en vigilance orange.
Et oui, Nicolas, dans 7 départements vigilance crue, du Lot et Garonne aux Pyrénées-Atlantiques à la Haute-Garonne, et 5 départements en vigilance avalanche pour les 5 départements des Pyrénées. La perturbation, en fait, rebrousse ce chemin, mais ce matin, le ciel est encore couvert, sans pluie, de la Bretagne au Cotentin jusqu'au Pays Basque. Ailleurs, les grisailles sont assez nombreuses où vous avez des brouillards givrants, car le mercure est descendu bien bas, il fait moins 6 à Apt, et en Haute-Loire, moins 4 à Nevers, moins 1 à Strasbourg, 0 seulement à Toulon, à Lille 2 à Paris, à Ajaccio, comme à Tours, vous avez 4 à Antibes, 6 à Bordeaux, mais 11 à Lille de Bas.
Et retour du soleil cet après-midi.
Oui, la perturbation va continuer de s'éloigner, repoussée par ces deux anticyclones, laissant encore quelques nuages de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire, alors que sur le reste du pays, le soleil sera généreux, avec du vent méditerranéen sur les Caps Corse. Encore quelques grisailles résistantes quand même dans l'Alsace, dans le Val-de-Saône et le Lyonnais. Il fera plus froid dans l'Est, moins 2 à Villard-de-Lans, moins 2 à Saint-Étienne, 4 à Besançon et Grenoble et à Lille. Comptez 5 à Clermont-Ferrand, 6 à Paris, 9 à Toulouse, 10 à Marseille, 11 à Sainte-Gabelle, 14 à Hyères et à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. Vous écoutez France Inter et vous faites bien, il est 8h17, Géopolitique.